Ici Téhéran, voix de la République islamique d'Iran. Au nom de Dieu, le très miséricordieux, le tout miséricordieux. Recueillons-nous pour quelques instants et méditons ensemble sur les versets 1 à 11 de la Sainte Sourate Al-Lail. Nous vous en présentons tout d'abord la lecture chantée et ensuite la traduction.
A'udhu billahi minash shaytanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم والليل إذا يغشى والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى
وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى صدق الله العلي العظيم.
Par la nuit, quand elle enveloppe, et par le jour, quand il éclaire, et par ceux qu'il a créés mâles et femelles. Certes, oui, vos efforts sont divergents. Puis, quant à celui qui fait largesse et se comporte en piété et confirme la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande facilité. Et quant à celui qui est avare et cherche à se mettre au large et traite de mensonge la plus belle des choses, alors nous lui faciliterons la plus grande difficulté. Une fois perdu, cependant, ses richesses ne le mettront pas au large.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, bonjour et bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Nous sommes le samedi 18 Dey, 1400 du calendrier iranien, 8 janvier 2022. Aujourd'hui, nous allons vous présenter notre bulletin d'information suivi d'un commentaire politique. La France prend un ton positif au pourparlers de Vienne, pour dire qu'un accord est à portée de main. Le huitième tour des pourparlers se poursuit à Vienne sur la levée des sanctions. Le 8 janvier, deuxième anniversaire de la frappe balistique iranienne contre la base américaine d'Ayn al-Assad en Irak. Et la Banque mondiale approuve un prêt de 90 millions de dollars à l'Iran pour lutter contre la COVID-19. C'étaient les principaux titres de l'actualité. Voici le journal. L'Iran et les autres parties à l'accord nucléaire de 2015, connu sous le nom du plan global d'action conjoint, poursuivent le huitième tour de pourparlers dans la capitale autrichienne, Vienne. Le négociateur en chef iranien, Ali Boredikhani, a rencontré à Vienne les représentants des trois signataires européens de l'accord. Des pourparlers au niveau des experts sont également en cours sur la suppression des sanctions américaines contre l'Iran et le retour de Téhéran au plein respect de ses engagements dans le cadre de l'accord. Les représentants de la Russie et de la Chine ont déclaré aux journalistes, après les pourparlers, que les négociations avancent dans la bonne direction. Un responsable européen qui a requis l'anonymat a déclaré aux journalistes que les négociations avancent pas à pas. Il a noté qu'aucun progrès significatif n'a encore eu lieu dans le processus des négociations, mais que l'atmosphère des pourparlers est positive et que les délégations travaillent dur pour parvenir à un accord final. Le 8 janvier marque le deuxième anniversaire de la frappe de missiles iraniens contre les forces américaines basées en Irak. L'attaque a eu lieu 5 jours après l'assassinat par les États-Unis du général iranien Qassem Soleimani, près de la capitale irakienne Bagdad. Le corps des gardiens de la révolution islamique a tiré des missiles balistiques sur la base aérienne d'Ayn al-Assad à l'ouest et une autre sur le nord de l'Irak. Quelques heures après l'attaque au missile, le leader de la révolution islamique, l'honorable Ayatollah Khamenei, a prononcé un discours télévisé en direct. Il a décrit l'opération comme une gifle au visage des États-Unis, jurant que la vraie vengeance de l'Iran était encore à venir. Quelques jours plus tard, l'armée américaine a annoncé que plus de 100 militaires avaient subi des commotions cérébrales lors de l'attaque iranienne. Le chef de l'Organisation pour l'assistance économique et technique à l'investissement de l'Iran, Ali Fekri, a déclaré que malgré l'opposition des États-Unis et du lobby sioniste, la Banque mondiale a accepté d'accorder un prêt de 90 millions de dollars à la République islamique d'Iran pour lutter contre la COVID-19. La Banque mondiale a accepté d'accorder le prêt au ministère iranien de la Santé et de l'Éducation médicale en ignorant les tentatives des États-Unis et du lobby sioniste, a déclaré M. Fekri. Le prêt a le taux d'intérêt le plus bas par rapport aux autres financements internationaux, a-t-il déclaré, ajoutant que tous les équipements pharmaceutiques et médicaux nécessaires au ministère de la Santé pour lutter contre le coronavirus sont achetés par l'Organisation mondiale de la Santé et livrés à l'Iran, et donc les problèmes de banque, les transferts et les sanctions n'auront aucun impact à cet égard. L'Iran dit qu'il reste prêt à tenir des pourparlers bilatéraux avec les parties concernées au sujet de la chute accidentelle d'un avion de ligne ukrainien près de Téhéran il y a 2 ans. Dans un communiqué, le ministère iranien des Affaires étrangères a déclaré que 3 séries de pourparlers avaient déjà eu lieu avec le gouvernement ukrainien sur les mesures prises en la matière. Il a toutefois averti que certains pays tentaient d'exploiter l'incident tragique. Il a déclaré que certaines réparations avaient déjà été payées et que la République islamique d'Iran s'était déjà déclarée prête à verser des indemnisations aux familles des victimes étrangères. L'Iran invoque l'erreur humaine pour la destruction car il anticipe une attaque militaire américaine. Quelques heures avant l'incident, l'Iran avait mené des frappes de missiles sur une base américaine en Irak en représailles à l'assassinat de son commandant antiterroriste, le général Qassem Soleimani. Le président kazakh Kassym Tokayev a tenu une réunion d'urgence pour évaluer la situation qui est devenue incontrôlable suite à la récente hausse des prix du carburant. La sécurité est renforcée autour du palais présidentiel dans la capitale Nur-Sultan. Les autorités kazakhes ont annoncé samedi l'arrestation de Karim Massimov, ancien chef du comité de sécurité nationale du Kazakhstan, pour soupçon de trahison, alors que l'ancienne République soviétique est secouée par sa plus importante crise en 30 ans. Karim Massimov, limogé cette semaine de son poste de chef du renseignement, a été arrêté avec plusieurs autres responsables. Selon le comité, qui ne précise pas l'identité des autres détenus, les manifestations au Kazakhstan, qui ont fait une 10aine de morts, ont été déclenchées sur fond d'inflation et de hausse des prix de l'énergie. Après plusieurs jours de violence, les forces de sécurité semblaient avoir repris vendredi le contrôle des rues de la principale ville du Kazakhstan, Almaty. Dans un long entretien téléphonique avec Vladimir Poutine, Kassym Tokayev a déclaré à son homologue russe que la situation au Kazakhstan était en cours de stabilisation selon le Kremlin. Le Kazakhstan, plus grand pays d'Asie centrale, est ébranlé par une contestation qui a éclaté dimanche dernier en province avant de s'étendre à d'autres villes et surtout à Almaty, la capitale économique, où les manifestations ont viré en émeutes chaotiques et meurtrières. Les autorités ont affirmé que 26 criminels armés avaient été déjà tués et plus d'un millier de manifestants blessés, les forces de l'ordre, faisant état par ailleurs de 18 tués et de 748 blessés dans leur rang. Plus de 4000 personnes ont été arrêtées. Et enfin, pas de fin en vue des tensions entre Washington et Moscou à propos de l'Ukraine. Le secrétaire d'État américain a de nouveau mis en garde la Russie contre ce qu'il a appelé l'agression de Moscou. Les États-Unis ne se laisseront pas distraire par les exigences russes visant à empêcher l'Ukraine de rejoindre l'OTAN, a déclaré vendredi le chef de la diplomatie américaine, Anthony Blinken, avant les pourparlers entre l'Occident et Moscou. Le secrétaire général de l'OTAN a également mis en garde contre un mouvement important de troupes en cas d'invasion russe des pays de l'OTAN. Les Occidentaux et l'Ukraine accusent depuis plusieurs semaines la Russie d'amasser des dizaines de milliers de soldats à la frontière ukrainienne en vue d'une potentielle invasion et ont clairement menacé le président russe Vladimir Poutine de sanctions massives et sans précédent s'il attaquait à nouveau le pays voisin. Le ministre français des Affaires étrangères, Jean-Yves Le Drian, adopte un ton positif sur les négociations en cours à Vienne pour relancer l'accord iranien de 2015, affirmant que des progrès ont été réalisés dans les pourparlers. Dans des remarques vendredi, Jean-Yves Le Drian a déclaré qu'il reste convaincu que les parties aux pourparlers peuvent parvenir à un accord. Nous sommes allés dans une direction positive ces derniers jours, mais le temps presse, car si nous ne parvenons pas à un accord rapidement, il n'y aura rien à négocier, a déclaré Le Drian. Ces remarques sont intervenues après que le négociateur en chef de la République islamique d'Iran, lors des pourparlers de Vienne, Ali Bareilly Kani, a déclaré que les négociations avec les autres signataires de l'accord iranien étaient positives et évolutives. L'accord a été unilatéralement abandonné par les États-Unis en 2018, 3 ans après sa signature. Plus tôt cette semaine, les États-Unis ont également déclaré que les négociations à Vienne avaient montré des progrès modestes. Les négociations ont lieu entre l'Iran et les autres parties du plan global d'action conjoint, à savoir la Russie, la Chine, la Grande-Bretagne, la France, l'Allemagne et l'Union européenne. Le 8e tour des pourparlers, le 2e sous le nouveau président de la République islamique d'Iran, Ibrahim Raisi, a repris lundi après avoir ajouté de nouvelles demandes iraniennes à un texte de travail. En se retirant de l'accord en 2018, l'administration Trump a rétabli des sanctions économiques sévères contre la République islamique d'Iran. L'Iran dit que les sanctions américaines doivent être levées de manière vérifiable. Téhéran dit également que Washington devrait fournir des garanties qu'il ne se retirera pas à nouveau de l'accord de 2015. Entre-temps, l'Occident prend un ton très différent. L'agence iranienne Nour News, affiliée au Conseil suprême de la sécurité nationale iranienne, a déclaré vendredi que les nouvelles positives en provenance de Vienne ces derniers jours montre que l'attitude positive des parties occidentales vis-à-vis de l'accord était très différente de leur approche du précédent tour des négociations. L'OTAN des négociateurs occidentaux, qui au tour précédent était davantage basé sur la pression et même les menaces, a beaucoup changé et s'est adouci, a déclaré le site internet, citant des sources proches de l'équipe de négociation de la République islamique d'Iran. L'article soutenait que la partie occidentale avait initialement tenté de submerger la nouvelle équipe de négociation de la République islamique d'Iran et de la rendre passive. Le but ultime de ces mesures était d'affaiblir la volonté de l'équipe de négociation de la République islamique d'Iran au cours d'une lutte décisive pour la réalisation des droits de la nation iranienne, a-t-il déclaré. L'article indique que les tentatives des parties occidentales ont échoué alors que l'équipe iranienne a résisté aux pressions, notant que la résistance a conduit à l'inclusion des nouvelles positions de l'Iran dans le nouveau texte sur lequel les négociateurs sont en train de discuter.
Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans une nouvelle édition du débat. Ces derniers jours, des opérations se sont multipliées contre les bases abritant des troupes américaines en Irak, mais aussi en Syrie, dans un contexte de sentiment anti-américain croissant dans ces deux pays. La base américaine d'Ain al-Assad, mais aussi celle de Victoria, ont été prises ces derniers jours par de multiples requêtes. Il en est de même pour la situation des forces américaines en Syrie où une base américaine a été prise pour cible dans la province de Deir ez-Zor. Selon certaines informations, alors les Américains ont retiré une grande partie de leurs forces de la base à Tanf dans le désert oriental de la Syrie. Rappelez que depuis longtemps, en effet, les populations syriennes, mais aussi irakiennes, ainsi que les dirigeants de ces deux pays exigent le retrait des troupes américaines de leurs pays respectifs. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur cette multiplication des opérations anti-américaines et bien sûr l'avenir de la présence militaire des Américaines dans ces deux pays. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Des sources officieuses viennent de faire état d'une attaque à la roquette d'envergure contre une base militaire de la coalition dirigée par les États-Unis dans la province syrienne de Deir ez-Zor Est. L'attaque a eu lieu mercredi 5 janvier dans l'après-midi contre la base américaine située près du champ pétrolier Al-Omar. De nombreuses roquettes ont frappé cette base. C'est la troisième fois depuis 24 heures que la base américaine à Al-Omar fait l'objet d'une attaque à la roquette. Ce mercredi matin, la base a été attaquée par trois roquettes. L'attaque a causé un grand incendie dans la base, selon des sources locales. Une source proche de la coalition dirigée par les États-Unis a prétendu que des groupes soutenus par l'Iran sont responsables des attaques contre les bases militaires américaines en Syrie et en Irak. Mardi 4 janvier, dans l'après-midi, la base américaine à Al-Omar a été aussi frappée par plusieurs roquettes, mais l'attaque n'a pas fait de pertes en vie humaine. En Irak voisin, la base aérienne des forces américaines à Ain al-Assad Ouest, la base américaine Victory Bagdad ont été également attaqués. Des drones ont été utilisés pour attaquer la base Victory. Des sources locales ont rapporté que sur les drones, la phrase « opération pour manger », les commandants avaient été libellés. Des sources irakiennes rapportent que mercredi 5 janvier dans la soirée, au moins un convoi logistique de l'armée américaine a été attaqué à Samawa Sud. L'agence Sabre News a rapporté qu'un convoi de l'armée américaine a été attaqué deux fois dans le sud du pays, mais le correspondant de la chaîne Al-Mayadin a rapporté qu'il s'agissait de deux attaques contre deux convois distincts de l'armée américaine. Des sources locales ont annoncé qu'un groupe appelé Qasem al-Jabarin a revendiqué la responsabilité des deux attaques. Aucun rapport n'a encore divulgué les pertes et les dégâts causés par ces frappes. Après la résolution approuvée par le Parlement irakien pour exiger le retrait des forces militaires étrangères, l'armée américaine insiste à maintenir ses soldats en Irak, d'où des attaques successives contre les bases et les convois de l'armée américaine. Mercredi 5 janvier, l'agence Sabre News a rapporté qu'un autre convoi logistique de l'armée américaine a été attaqué dans la province irakienne de Bab el-Centre. Le groupe appelé Qasem al-Jabarin a revendiqué la responsabilité de cette attaque. Aucun rapport n'a encore divulgué les pertes et les dégâts causés par ces frappes. Mercredi 5 janvier dans la soirée, une attaque à la roquette a été menée contre la base aérienne des militaires américains à Ain al-Assad dans la province irakienne d'Al-Anbar, ouest. L'agence Sabre News rapporte que 12 roquettes de 107 mm ont été tirées sur la base. Le système de DCA de la base a été activé après l'attaque. Ce rapport précise que les roquettes ont été tirées depuis le village d'Al-Pastamiya, à 25 km de la ville de Hit. La coalition dirigée par les États-Unis a reconnu le tir de 5 roquettes contre la base d'Ain al-Assad.
Autour au plateau de l'émission du débat, merci de votre fidélité. Nous allons tout de suite commencer cette émission avec Monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue français, qui est en ligne avec nous depuis Toulouse. Monsieur le professeur, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Je sais que demander. Bonjour à tous vos auditeurs et bien sûr à votre invité.
On s'y attendait peut-être, Monsieur le professeur. Des opérations anti-américaines se multiplient en effet en Irak et en Syrie, notamment en Irak où, en principe, et selon l'accord Bagdad de Washington, les troupes américaines auraient dû en effet se retirer de ce pays le 31 décembre. Des attaques, des frappes aux missiles, aux drones, à l'explosif, continue de viser non seulement les bases américaines, mais aussi les convois logistiques américains en Irak. Que signifie cette augmentation, cette multiplication des opérations anti-américaines en Irak, mais aussi en Syrie?
Eh bien, elles ont, deux aspects complémentaires. Le premier, bien sûr, qui saute aux yeux, est celui d'insister sur ou de concrétiser, disons, la décision du Parlement irakien de la fin de l'occupation américaine. Et le deuxième aspect, c'est celui également de fournir aux Américains, est-ce une intention directe ou indirecte, ça l'histoire le dira, l'occasion aussi de dire que la situation est intenable. Je crois que c'est une perche, en fait, qui est tendue non seulement... c'est une résistance, bien sûr, mais une perche qui tend en même temps politiquement, je veux dire, aux Américains, disant que devant leur opinion publique et même, disons, devant, disons, les stratèges, il soit dit que la situation vraiment ne mérite pas que en Irak ne mérite pas que le maintien de nos troupes, cela n'a plus aucune utilité stratégique et peut-être même énormément, au contraire, de conséquences néfastes du point de vue politique. Il y a donc tous ces aspects-là. Votre collègue, si je puis me permettre, M. Malpino, vous savez, dont le nom est si connu chez nous, dans le Figaro, fait remarquer que il n'y a pas de perte américaine, tout au moins avouée, vous voyez, dans ces attaques. Alors, elles sont évidemment non liées à l'Irak, bien sûr, surtout à la Syrie ouest, si je puis dire. Et je crois que ces attaques auront une conséquence politique et diplomatique. Je pense qu'elles peuvent être même, j'ose le dire, une carte entre les mains de ceux qui, aux États-Unis, veulent réorganiser la stratégie au Proche-Orient. C'est-à-dire dire que la lutte antiterroriste, qui était le motif premier, voyez-vous, de cette chose-là, de leur présence, n'a plus de sens. Et d'autre part, évidemment, il y a des groupes aussi aux États-Unis qui prennent ça à l'inverse. C'est-à-dire qu'ils voient une occasion d'attaque contre l'Iran, en disant que ce sont des groupes inspirés par l'Iran, etc., pour dire qu'il ne s'agit pas de désirs nationaux, voyez-vous, de vœux populaires. Il s'agit là d'un vœu populaire, bien sûr, puisqu'il faut le rappeler, vous le dites, il faut le rappeler toujours que c'est une décision, en tout cas en Irak, du Parlement, qui fait que les États-Unis ne devraient plus pouvoir rester, ni même sous une forme de coopération militaire, voyez, qui a été avancée, qui serait un déguisement. Je crois que le sens est assez heureux de ces attaques, surtout si elles sont sans perte humaine, seulement matérielle. Elles peuvent être un argument dans le sens de la résistance, bien sûr, le renforcement, bien sûr, ça c'est évident, pas la peine de le dire. Mais en même temps, dans le camp américain, cela peut être utilisé, disons, tantôt, pour certains, comme un argument anti-iranien, mais d'autre part, à mon avis, cela commence à être, sinon majoritaire, du moins important, dans le camp de ceux qui veulent réorganiser une stratégie. Mais là, nous quittons le Proche-Orient, nous quittons l'Asie pour l'Europe. C'est-à-dire que, je voulais dire ça en un seul mot, ce que j'abondais, c'est-à-dire que les préoccupations américaines en Europe, en particulier en Ukraine, peuvent changer évidemment aussi leur comportement, donner un argument à ceux qui veulent se retirer, disons, de positions inutiles en Irak et en Syrie, pour pouvoir se concentrer naturellement en Europe.
Merci infiniment pour ces éclairages. Monsieur le professeur, restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Paris Monsieur Habib Tava, écrivain et journaliste. Monsieur Tava, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Merci de me recevoir. Je vous remercie aussi de votre intérêt. Écoutez, j'ai écouté notre collègue parler, et il y a un point qui me frappe dans la situation actuelle. C'est que si nous regardons Daesh, au moment où il a essayé de briser les frontières entre l'Irak et la Syrie et constituer un État qui soit à cheval sur les deux pays, sur le nord des deux pays, eh bien aujourd'hui, les Américains reprennent exactement la même stratégie, ce qui prouve bien que Daesh était une de leurs créations, et essayent aussi de jouer sur le nord de la Syrie et le nord de l'Irak en sautant de l'un à l'autre, en justifiant ainsi une politique où si les uns font pression, les autres feront moins pression, et on va et on vient. Et dans les deux cas, nous avons aussi bien les autorités irakiennes qui ont voté au Parlement le retrait de l'armée américaine, et en même temps les Syriens qui ont toujours récusé la présence américaine à l'est de l'Euphrate. Dans ces deux cas, nous avons des États qui s'opposent à la présence des États-Unis, lesquels essayent de se maintenir en dépit de tout. Alors, nous avons d'une part le début des attaques qui se passent en Irak, où le Hashd al-Shaabi avait déclaré en particulier qu'après le 1er janvier, les États-Unis, les forces américaines n'auraient plus le droit de présence en Irak, et ce qui se passe, simplement la concrétisation de ce rejet. Et deuxièmement, le début de résistance que l'on voit aussi apparaître dans l'Euphrate, dans la région de l'Euphrate, de la part des Syriens contre la présence américaine. Donc il y a une dualité à la fois de l'opposition des deux pays et à la fois des Américains qui essayent de jouer sur les deux tableaux. Je ne pense pas que cette histoire puisse durer, puisque d'une manière quelconque, il faudra bien que les Américains se trouvent des justifications. Et aujourd'hui, il n'y a aucune justification à leur présence. Et c'est pour ça qu'ils essaient de réanimer Daesh, que ce soit en Irak ou en Syrie. Donc là, voilà, ce double balancement est clair à voir.
Merci pour ces précisions, M. Tava, restez avec nous. M. D'Ortiguier, alors, Il paraît qu'un an après l'assassinat par les États-Unis du général Soleimani et d'Abu Mahdi al-Mohandes, vous l'avez rappelé tout à l'heure, c'est une exigence nationale, le retrait des troupes américaines. Il paraît que désormais, alors, on est entré dans une nouvelle phase, celle de la déclaration de guerre directe, en effet, aux troupes américaines aux États-Unis. Quelles seront les conséquences géostratégiques et géopolitiques de cette nouvelle phase, de cette déclaration de guerre, non seulement en effet de la résistance, mais aussi en effet des populations irakiennes et syriennes, non seulement dans ces deux pays, mais aussi au niveau régional?
Eh bien, de même que les Américains sont retirés d'Afghanistan, on ne peut pas, disons, prévoir autre chose qu'un retrait des Américains de la Syrie et de l'Irak. D'abord, pour la Syrie et l'Irak, il faut noter que leur présence maintenant est infime. Donc il s'agit finalement d'une présence, je dirais, symbolique. On parle de quelques milliers d'hommes. Il faudrait remarquer à cet égard, dans la suite des jours à venir, dans la suite des jours, là, que si, disons, les opérations terroristes, proprement dites, des organisations qui se revendiquaient de Daesh, d'Al-Nusra, etc., vont continuer. Je pense que nous allons assister à une diminution, à un affaiblissement de ces organisations, parce qu'elles ne seront plus, disons, couvertes. Je n'ose pas dire nourries, mais disons, elles ne seront plus supportées, disons, par des groupes soit officiels, soit officieux, venant des États-Unis, entre autres, par exemple. Alors, je crois que les Américains les Américains me font penser, leur situation me fait penser à celle qui a eu lieu lors de l'assassinat du général Soleimani. Je me souviens très bien, je l'avais suivi ici à Téhéran, les ripostes, disons, qui ont touché la base américaine, ont été des ripostes, disons, qui ont fait, je crois, peu de victimes, sinon même quasiment pas de victimes. Alors, je me demande en quelle mesure, disons, les Américains ont été libres de leur mouvement, c'est-à-dire, est-ce qu'ils ont vraiment décidé la mort du général Soleimani de leur propre liberté, par leur propre initiative, ou est-ce qu'elle leur a été imposée? C'est ce que tentait de dire autre jour M. Trump. Alors, je ne sais pas si cette justification est tout à fait sera prise en compte sérieusement par l'histoire, mais je dois quand même dire que ou insister sur ce fait qu'il y a, disons, un élargissement de la stratégie américaine, c'est-à-dire ce qui était fixé sur le Proche-Orient maintenant, ou fixé même contre l'Iran, me semble devoir évoluer ou prendre une autre forme, disons, évoluer d'ailleurs favorablement pour l'Iran et pour les peuples du Proche-Orient, à cause du conflit, c'est du conflit ou de la rivalité plus importante, plus accentuée, qui se fait avec la Russie et la Chine. Je crois que ceci, disons, joint à la résistance naturellement, fait que nous assisterons peut-être à un déplacement, je ne dis pas des conflits, mais un déplacement de la tension internationale dans ce sens. Et donc, ceci est favorable, bien sûr, aux intérêts nationaux de la Syrie et de l'Irak, bien sûr. Il s'agit là, de toute façon, d'une victoire de la résistance, d'une victoire, bien sûr, indéniable, qui s'est produite, disons, au cours du temps. C'est quand même, n'oublions pas que cette lutte contre le terrorisme, et cela a d'ailleurs un côté assez étonnant, a pris quand même une dizaine d'années. Alors que, même avec l'appui russe, par exemple, on pouvait imaginer que cette subversion terroriste armée, bien sûr, par l'Occident, aurait pu, disons, ne pas durer autant. Alors, est-ce qu'il y a derrière des intérêts stratégiques très importants à l'échelle mondiale, sans avoir l'ambition ou la prétention de les exprimer, enfin de les énumérer? Je crois qu'il y a effectivement une augmentation de la tension sur d'autres champs de bataille, voyez, que je pense européens malheureusement, qui font que la présence américaine, et surtout la présence physique américaine, disons la présence directe de l'armée américaine, ne me semble plus justifiée, et ne semble plus justifiée à mon avis aux gens du Pentagone. Je crois que de ce point de vue, il faut quand même revenir à ce qui a été le fait le plus extraordinaire, c'est quand même le départ précipité de l'Afghanistan. Bon, on a bon donner des explications, elles ne sont pas à la hauteur quand même de l'acte. S'agit-il d'une défaite militaire? Oui, en un sens, mais il ne faut pas non plus exagérer. Il y a quand même, une pensée de derrière la tête du côté des Américains, qui est importante, de même qu'il y a également une pensée derrière la tête, si je puis dire, c'est-à-dire toutes les puissances. Je veux dire, les grandes puissances, ce n'est plus l'Europe, malheureusement. C'est la Chine, la Russie. Bon, je crois qu'il faut voir plus loin, voyez-vous, et que les champs de bataille actuellement en Syrie et en Irak, et en tout cas considérer qu'il y a une union quand même politique en Syrie et en Irak autour de ce thème de l'indépendance et de la souveraineté nationale. Et de ce côté-là, bien sûr, même au bout de 10 ans et même plus, disons, cela a été une grande victoire de ces peuples qui avaient été, il faut le dire, littéralement écrasés.
Merci encore pour ces précisions, monsieur le professeur. Monsieur Tabar, alors selon de nombreux analystes, c'est au cours de l'année dernière, des évolutions se sont considérablement accélérées au détriment des États-Unis et en faveur de l'axe du front de la résistance. Dans quelle mesure, alors, ce changement de donne, si on peut utiliser ce terme, pourra en effet modifier le paysage géopolitique dans la région et aboutir à un retrait, en effet, à une expulsion humiliante des troupes américaines comme ce qui s'est passé en Afghanistan?
Malheureusement, je ne suis pas tout à fait de l'avis de M. Dorvilliers, parce que je veux bien que les troupes se retirent des zones habitées, par exemple à l'est de la Syrie, ou bien au nord de l'Irak, ou bien même dans le reste de l'Irak, c'est tout à fait possible. Mais il y a un point terrible, c'est la présence de la base de Tanf, qui se trouve en plein désert syrien, et à la limite des trois pays que sont la Jordanie, l'Irak et la Syrie. Et c'est une base qui a créé une zone d'exclusion de 50 km autour d'elle, où les djihadistes vont se cacher, où les Américains entretiennent une base militaire avec les Britanniques d'ailleurs, et d'où ils organisent d'une part des attaques directes contre la Syrie et des refuges pour les takfiristes de Daesh. Donc là, je ne vois pas très bien qu'est-ce qui pourrait éliminer les Américains de cet endroit. Mais c'est un point, un abcès de fixation très grave que je pense, M. Derouy, semble oublier. Je veux bien que dans les régions habitées, les régions habitées de l'Irak, les régions habitées de la Syrie, ils puissent à terme y avoir un retrait américain. Je ne sais pas comment est-ce qu'il y aura le retrait de cette région, qui est une région très grave parce qu'elle est à la frontière de trois pays et très solidement établie et une zone à partir de laquelle Israël a d'ailleurs mené des opérations contre la Syrie. Et donc je suis inquiet sur cet aspect technique des choses.
Et en ce qui concerne, M. Tabar, l'assassinat, en effet, du général Soleimani, selon de nombreux analystes, justement, cet assassinat, ce crime a eu des effets inverses pour les États-Unis. Est-ce que vous partagez ce point de vue?
Vous dites que c'est évident, c'est pour ça que je vous ai parlé de retrait des régions habitées. Des régions habitées, que ce soit en Syrie ou en Irak, c'est possible que les Américains se retirent. Est-ce qu'ils vont se retirer de cette zone désertique qui est située entre les trois pays et qui peut causer problème? Moi, c'est ça qui me préoccupe. Parce que jusqu'ici, aussi bien les Russes que les Syriens ont essayé de faire des avances pour déloger les Américains de là et ça n'a pas réussi. En plus, ils ont un réservoir de réfugiés qu'ils utilisent comme hommes de main ou bien de gens pour faire des opérations kamikazes, etc. La situation de Tanf, je pense, est très grave et il faut y penser.
Est-ce que cela signifie que les États-Unis, d'une part, et d'autre part, alors la Syrie, l'axe de la résistance et la Russie pourraient en effet entrer dans une guerre ouverte et directe?
Non, les Russes n'ont jamais voulu faire de guerre ouverte. L'axe de la résistance, effectivement, est en train de préparer des attaques contre les Américains, ça c'est indiscutable. Mais les Syriens, malheureusement, sont un peu tenus par les Russes et ne peuvent pas aller trop de l'avant. En revanche, bon, effectivement, pour les Irakiens, je pense qu'il y aura peut-être une libération du territoire. Mais je suis inquiet pour cette région de Tanf dont on parle fort peu, mais qui, stratégiquement, est une sorte de poison qui est installé entre les trois pays et qui, tant que ce ne sera pas éradiqué, c'est une verrue. Voilà comment je vois la chose. Bah, il faut être objectif aussi.
Habib Taba, journaliste depuis Paris, monsieur le professeur Pierre Dortiguier, philosophe et politologue depuis Toulouse. Merci infiniment d'avoir bien voulu apporter ces éclairages à notre émission. Merci beaucoup.
Merci.
Voilà, c'est la fin de cette émission. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Au revoir et à demain.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette émission Focus. Le ministre iranien des Affaires étrangères, Hossein Amir Abdollahian, a déclaré qu'un bon accord au 8e tour de Vienne est possible si les parties occidentales font preuve d'une volonté sérieuse. Nous voulons la levée des sanctions imposées à l'Iran par Trump, en particulier celles contraires à l'accord nucléaire, a-t-il déclaré. Amir Abdollahian a ajouté que nous voulons des garanties qui incluent le fait de ne pas imposer de nouvelles sanctions et de ne pas revenir aux sanctions actuelles après leur levée. Le chef de la diplomatie iranienne a considéré les exportations de pétrole de l'Iran et l'accès à ses revenus comme faisant partie de ces garanties. Il a également indiqué qu'il y a actuellement un échange informel de messages avec les Américains à Vienne dans le but de faciliter les négociations. Nous entendons de bonnes paroles de la délégation américaine à Vienne, mais il est important de voir des mesures sérieuses, a ajouté le ministre iranien des Affaires étrangères. La Corée du Sud doit libérer les avoirs gelés de l'Iran indépendamment des pourparlers de Vienne, a souligné le négociateur principal iranien. Le principal négociateur iranien lors des pourparlers de Vienne, dans la capitale autrichienne sur la levée des sanctions contre l'Iran, a rencontré le vice-ministre sud-coréen des Affaires étrangères à Vienne pour discuter de la libération des avoirs gelés de Téhéran à Séoul. Ali Boreli Chamni, qui est également vice-ministre iranien des Affaires étrangères chargé des affaires politiques, a déclaré lors de la réunion tenue avec Xu Jung-kun jeudi que, quel que soit le résultat des pourparlers à Vienne, le gouvernement sud-coréen a l'obligation de dégeler les fonds gelés de l'Iran, soulignant que les sanctions américaines unilatérales ne peuvent justifier le non-paiement des dettes de Séoul envers Téhéran. Le gouvernement sud-coréen est tenu de libérer les actifs bloqués de l'Iran et les sanctions américaines unilatérales ne peuvent justifier le non-paiement des dettes envers l'Iran, a-t-il martelé. Le secrétaire général du Hezbollah libanais, Seyed Hassan Nasrallah, a prononcé un discours le lundi 3 janvier à l'occasion du deuxième anniversaire de la mort en martyr de l'ancien commandant de la force Quds du corps des gardiens de la révolution islamique, le général martyr Rassem Soleimani, et de son camarades de combat et numéro 2 des unités de mobilisation populaire de Dirag, Abu Mahdi al-Mouandes. En ce qui concerne l'assassinat du général martyr Soleimani, Nasrallah a affirmé nul besoin de mener une enquête pour déterminer les auteurs de ce crime. Les États-Unis l'ont officiellement revendiqué. Ce crime a certes des conséquences sur divers plans, notamment des conséquences militaires, et ce sera toujours le cas à l'avenir. Nasrallah a également affirmé que les États-Unis étaient responsables de tous les crimes commis par Israël en Palestine et dans toute la région. La partie qui a massacré les Syriens et poussé la Syrie dans une guerre dévastatrice était l'Amérique. Et ceux qui sont venus protéger et sauver le peuple syrien, c'était le martyr Soleimani et ses camarades de combat, ajoute Nasrallah, avant de souligner. Les auteurs de ce crime recevront leur châtiment ici-bas. C'est la promesse non seulement des Iraniens, mais de tous les révolutionnaires et pris de liberté dans le monde. Quant à la guerre au Yémen, c'est Hassan Nasrallah a déclaré que les États-Unis ont été les premiers responsables de cette guerre d'agression dont l'exécution avait été confiée à l'Arabie Saoudite. Les États-Unis sont aussi responsables des crimes d'Israël au Liban, toutes ces guerres, ces frappes aériennes, toutes ces tueries. Comment peuvent-ils s'attendre à ce que nous voyons en Amérique un pays ami ? L'Arabie Saoudite a soutenu les terroristes. Nous n'avons pas attaqué l'Arabie. Ce sont les Saoudiens qui sont devenus complices de la guerre contre la région. Le terroriste est celui-même qui envoie des milliers de takfiristes en Syrie et en Irak. Quant à nous, nous sommes fiers d'avoir résisté face à ces criminels qui ont comploté contre notre pays et notre peuple, a-t-il affirmé. Et partout où des meurtriers américains étaient présents, le général Soleimani l'était aussi pour changer le rapport de force, a-t-il indiqué. Les factions de la résistance irakienne et du Hashd al-Shaabi multiplient leurs déclarations anti-américaines tout en estimant qu'il n'y a pas eu de retrait américain de leur pays. Le porte-parole de brigade de Sayyid al-Shuhada en Irak, Sheikh Qasem al-Fartousi, a déclaré, c'était le mercredi 5 janvier à Al-Mayadin, que Washington doit prouver son sérieux pour se retirer de l'Irak. Les attaques ciblant les forces américaines sont le résultat naturel du fait de qu'ils ne sont pas retirés d'Irak, a-t-il souligné lors d'une interview avec la télévision libanaise d'information Al-Mayadin, indiquant qu'elles ont repris après la fin du délai imparti pour leur retrait. Les opérations militaires contre les Américains en Irak se poursuivront et deviendront plus qualitatives, a-t-il averti. Au lieu de retirer leurs forces de ce pays, les États-Unis ont conclu un accord avec le gouvernement irakien de Mustafa al-Kazimi, stipulant de mettre fin à leur mission de combat pour la remplacer par une mission d'assistance logistique et de formation des forces armées irakiennes. Les 2500 militaires américains et les 1000 autres de la coalition se trouvent toujours en Irak. Cette décision est contraire à la résolution qui avait été votée au sein du Parlement irakien en janvier 2020, au lendemain de l'attaque terroriste américaine qui a coûté de la vie au général du corps d'armée Qasem Soleimani, commandant de la force côte du corps régalien de la révolution islamique, et à celle d'Abu Mahdi al-Mouandes, numéro 2 des Hashd al-Shaabi. La Corée du Nord a procédé à un tir d'essai de missile hypersonique, a rapporté l'agence officielle nord-coréenne KCNA, premier test de ce type de la part de Pyongyang cette année. Le missile a été tiré et transporté une ogive hypersonique qui a atteint avec précision une cible à 700 km de distance selon l'agence officielle nord-coréenne. C'est la seconde fois que la Corée du Nord fait état d'un tir de missile hypersonique, une arme sophistiquée qui atteste des avances de l'industrie de défense nord-coréenne. La Corée du Sud et le Japon ont détecté un tir par Pyongyang de projectiles non identifiés qui serait un missile balistique dans la mer située à l'est de la péninsule. Les États-Unis ont condamné de ce tir qui, selon eux, viole plusieurs résolutions du Conseil de sécurité de l'ONU et représente une menace pour les voisins de la Corée du Nord et la communauté internationale. Lors d'une importante réunion du parti au pouvoir la semaine dernière, le dirigeant nord-coréen a affirmé sa volonté de renforcer les capacités militaires de son pays, pourtant sous le coup des sanctions internationales. Ce nouvel essai intervient alors que la Corée du Nord n'a pas répondu à la proposition de Washington de rencontrer des représentants américains afin de négocier avec Pyongyang. Les négociations avec les États-Unis sont au point mort depuis l'échec en 2019 de la rencontre entre Kim Jong-un et Donald Trump, alors président des États-Unis d'Amérique. C'est la fin de cette émission. Merci infiniment de l'avoir suivi. Merci beaucoup pour votre fidélité à la radio francophone iranienne. Thank you.